travailler sur cette troisième ou quatrième séance, dans ces troisième séance de stratégie. Troisième et quatrième séance. Donc les deux séances, celle-ci et la suivante, seront consacrées au chapitre manœuvre et options. Peut-être, avant d'entrer véritablement dans la logique avant d'entrer vraiment dans la logique théorique et puis de commencer à aborder les processus, je vais partir d'un exemple concret pour vous dire un petit peu pourquoi nous allons parler des formes et manœuvres précisément des manœuvres et options, cette fois-ci en parlant principalement, monsieur, bonjour madame, monsieur, en parlant plus précisément, cette fois-ci aujourd'hui des formes de développement et la semaine prochaine, des politiques relationnelles des entreprises. Alors, je vais prendre un exemple très concret pour vous dire un petit peu pourquoi il est important de réfléchir sur les manœuvres et options et pourquoi il est important de consacrer deux séances à cette logique. On va prendre un secteur d'activité que vous connaissez tous, l'énergie. Pourquoi le secteur de l'énergie est-il un secteur important sur le plan stratégique, d'une part pour les entreprises qui sont concernées par ce secteur, mais également pour les pays qui abritent ces entreprises. Eh bien, parce que l'énergie est à la base du développement économique d'un pays, d'une entreprise. Vous ne pouvez pas avoir de réseaux de transport sans énergie, vous ne pouvez pas avoir d'urbanisation sans énergie, vous ne pouvez pas avoir d'industrialisation sans énergie, vous ne pouvez pas avoir de société moderne et développée sans énergie. D'accord ? Donc l'énergie, en fait, c'est utile parce que toutes les entreprises en dépendent pour leur activité. Que nous prenions une entreprise de textile, d'agroalimentaire, d'automobile, de services, peu importe, toutes les entreprises sont dépendantes de l'accès à des ressources énergétiques. D'accord ? À tel point qu'on peut se demander d'ailleurs si l'énergie ne devient pas un bien d'intérêt général pour un pays, parce que accéder à l'énergie, posséder l'énergie, conditionne le niveau de développement économique d'un pays. Et donc, le niveau de développement social, politique d'un pays. D'accord ? On pourrait prendre l'eau, ça serait exactement le même phénomène. C'est une ressource rare qui est utile pour l'urbanisation, l'économie, et qui est indispensable. D'accord ? Alors, prenons ce secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, vous avez plusieurs géants. Vous avez un géant américain aux USA qui s'appelle Exxon. Vous avez en Russie un géant russe qui s'appelle Gazprom. Vous avez en Chine un géant chinois dont je ne me souviens plus le nom. On va appeler Sinoix, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en Europe, vous avez dans l'ordre de puissance sur le marché. En 1, vous avez British Petroleum. En 2, vous avez Shell. Et en 3, vous avez Total. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la première capitalisation boursière en France c'est total. Et c'est un nain par rapport aux géants de l'énergie sur le tableau mondial que je vous dresse. Qu'est-ce que les analystes disent sur ce secteur tel qu'il est aujourd'hui défini? Ils disent il y a trop d'entreprises sur ce secteur d'activité. Alors il faut voir que les entreprises chinoises, russes et américaines représentent en taille, en pouvoir de négociation et en puissance sur le marché l'équivalent des trois entreprises européennes dont j'ai parlé. Ce qui signifie concrètement que on peut imaginer, si vous suivez mon raisonnement, qu'à terme, il n'y ait plus trois entreprises en Europe, mais une entreprise en Europe qui soit capable de rivaliser à armes égales avec les entreprises américaines, chinoises ou russes. À court terme, qu'est-ce que cela peut entraîner comme hypothèse stratégique? À court terme, on peut très bien imaginer que le numéro 1 du secteur européen, BP, envisage de racheter ou de conquérir le plus faible, c'est-à-dire Total. Ça, c'est une hypothèse tout à fait réaliste sur laquelle travaillent beaucoup de fonds d'investissement. Quelle peut être donc la marge de manœuvre de Total pour éviter peut-être ce phénomène de rachat? C'est tout simplement d'être capable, pourquoi pas, de prendre le contrôle du numéro 2 et de racheter l'entreprise Shell. Donc, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la taille de Shell et de Total va devenir supérieure à celle de BP. BP n'aura plus les moyens financiers de faire une OPA ou de racheter l'entreprise dans des conditions idéales. Alors, je vais vous passer la parole. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a un phénomène de concentration et de croissance en taille dans l'énergie qui pousse les entreprises à raisonner en termes de manœuvres, d'options. Et donc, on n'est plus dans une logique, de photographie, diagnostic, théorique, etc. On est dans une logique de, comme vous le constatez, de mondialisation, de compétition mondiale, où les acteurs défendent des stratégies pour leur survie. Donc on va parler, on va insister un petit peu là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce secteur d'activité qui est un peu symbolique, l'énergie, vous allez retrouver le même phénomène dans d'autres secteurs d'activité, autrement dit, et j'y reviens assez souvent, autrement dit, la compétition des entreprises aujourd'hui, c'est une compétition qui n'est plus basée sur le profit ou la rentabilité. Pourquoi? Parce que Total a dégagé plus d'un milliard de bénéfices l'année dernière. Shell et BP sont extrêmement profitables. Donc la question, ce n'est pas d'être capable de maîtriser les coûts et de séduire un certain nombre de clients. La question, c'est d'être capable de survivre dans un univers de concentration où vous avez des entreprises extrêmement agressives. Alors, je vais vous passer la parole. Attention, Total a une capitalisation boursière inférieure à celle de BP et inférieure à celle de Shell. En France, si vous prenez les valeurs du CAC 40, mais attention, BP et Shell, ce sont des entreprises anglaises. Mais en France, tout secteur confondu, Total est certainement l'entreprise qui a la capitalisation boursière la plus importante. Mais attention, regardez au palmarès mondial des entreprises, et vous verrez qu'il y a très peu d'entreprises françaises, y compris parmi les plus puissantes, qui figurent dans ce palmarès mondial. Donc, à l'échelle de la France ou de l'Europe, on peut dire que Total est une entreprise importante. À l'échelle du monde, c'est une toute petite entreprise qui est vulnérable et fragile. D'accord? Oui, monsieur.
Dans quelle mesure l'interventionnisme de l'État peut-il jouer un rôle?
Attendez, parce qu'il y a eu une discussion en cours. Je vous demanderai d'arrêter de discuter les deux copines. Vous êtes arrivés en retard, vous papotez, et c'est pas un peu le but de l'amphi. Si vous voulez vous papoter, vous vous retrouvez à l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Si vous venez pour suivre le cours, vous suivez le cours. Ok. Alors, donc j'écoute votre question.
On a vu par le passé que l'État intervenait ponctuellement sur une décision de rapprochement de certaines entreprises. Et je voulais savoir dans quelle mesure, dans un domaine aussi stratégique que l'énergie, l'État pouvait jouer un rôle de régulateur du système de marché qui peut amener les entreprises à se préoccuper ou à absorber.
Oui, mais je pense que votre camarade là, qui a écouté la question va pouvoir y répondre. Oui, mademoiselle. Allez-y. Oui ? Comment ? Vous n'avez pas entendu la question ? Vous n'avez pas entendu la question ? Bon, ben, rapprochez-vous, venez. Venez.
On a remarqué que l'État intervenait ponctuellement de temps en temps sur des rapprochements qui pouvaient avoir lieu entre différentes entreprises, mais certainement au niveau stratégique, l'État doit jouer un rôle dans la régulation des rapprochements qui peuvent avoir lieu entre des entreprises qui sont sur le secteur énergétique. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure l'État peut se permettre d'intervenir et est-ce que le marché, au final, n'a pas toujours raison. Est-il possible de le voir à sa tendance?
Bon, c'est une question bien sûr importante et intéressante. Alors votre camarade maintenant l'a entendu, elle va pouvoir y répondre. Oui, bonjour. Vas-y. Pas aussi simple que ça. Donc personne n'a véritablement de... Oui.
Oui, comme on a vu que le domaine énergétique, c'est un domaine stratégique. En plus, vu la taille des entreprises, quand ils vont coopérer ou faire des fusions, ça risque de créer des phénomènes de monopole.
Alors,
ce qui est interdit par les règles de l'Union européenne.
Alors, c'est intéressant de, pourquoi pas, de mettre l'accent sur le Conseil de la concurrence, etc. Le problème est le suivant, c'est qu'au niveau français, vous avez 11 secteurs qui sont dits protégés, entre guillemets, de l'économie de marché, et où s'applique une forme de patriotisme économique. Vous avez les jeux, vous avez la haute technologie, vous avez la défense, pourquoi pas l'énergie, les télécommunications. Ce que dit l'État à la Commission de Bruxelles, l'État français dit, on doit protéger d'une certaine manière ces secteurs, notamment de l'arrivée de capitaux étrangers ou de raideurs, parce que en cas de conflit armé, pour la défense nationale, ça peut avoir une utilité d'être autonome et indépendant. Pourquoi ? Parce que vous entrez en conflit avec un pays X qui possède le capital des entreprises de défense, vous ne pouvez pas rivaliser sur le plan militaire. D'accord ? Donc, alors attention, donc l'une des prérogatives de l'État, c'est d'assurer d'une certaine manière des fonctions régaliennes en dehors de l'économie de marché, comme la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que vous avez bien compris qu'on est dans un univers de mondialisation. Et donc, que, par exemple, si l'État français décide unilatéralement de dire « Ah, attention, Total, ça doit rester franco-français ». Mais Total peut prendre des parts de marché en Italie, en Allemagne, mais les Allemands ou les Italiens ne peuvent pas venir en France. La Commission de Bruxelles va dire on n'est plus dans une économie de marché ouverte telle que le définit l'Union européenne. Donc, en partant de là, la question qui se pose, qui est quand même intéressante, parce qu'on voit de toute manière qu'ici, ça a été plus ou moins nationalisé, pour notamment comme outil d'influence géopolitique de la Russie sur d'autres pays, et notamment en Europe de l'Est, c'est l'arme politique, plutôt l'arme économique au service du politique. Aux États-Unis, il y a des enjeux aussi très importants avec l'industrie pétrolière. Je ne vais pas vous refaire l'historique des relations internationales des États-Unis avec le Moyen-Orient, par exemple. En Chine, c'est pareil. Donc on voit bien que, à l'échelle du dossier énergétique, la compétition que se livrent les entreprises dépassent le cadre et le contexte de l'entreprise même, et touchent même, on va dire, une compétition entre pays ou entre zones du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, aucune de ces entreprises et aucun des pays en Europe ne peut rivaliser à armes égales avec la Chine, la Russie, les États-Unis. Le seul moyen, c'est effectivement de dire, à terme, il n'y a plus qu'un champion européen. Et on n'est pas dans une logique de monopole, donc ça ne peut pas être contesté par le Conseil de la concurrence, puisque vous avez toujours des acteurs qui, à l'échelle mondiale, proposent des offres alternatives. Seulement, si vous dites « je vais faire un champion européen », est-ce que ce champion européen, il doit être piloté, dirigé par l'Angleterre ou par la France, par exemple, sur le plan de l'énergie ? Donc c'est pas pareil, parce que là, c'est l'influence géopolitique des pays à l'intérieur de l'Europe. Et on voit bien que la faiblesse, très certainement, de l'Europe en tant que communauté de pays réside là-dedans. C'est que chaque pays, légitimement, a des intérêts différents. Pour les regrouper dans l'intérêt général de l'Europe et dans la compétition mondiale, c'est difficile. Mais effectivement, vous prenez le dossier de l'armement, vous allez retrouver les mêmes problèmes. Pourquoi la France travaille avec des commandes publiques avec Dassault, alors que tous les pays européens travaillent avec EADS? Pourquoi il y a une compétition entre Eurocopter et puis le Rafale ou d'autres appareils plus franco-français? Économiquement, ça n'a pas de sens.
Et aujourd'hui, l'Europe ne se considère pas comme un pays à part entière, comme les États-Unis par exemple. On est confronté quand même à différentes cultures.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'Europe, c'est un réseau de pays. C'est-à-dire que dans l'Europe, vous avez, les pays sont indépendants et en même temps complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, c'est pas de dire vous perdez l'autonomie, l'indépendance, la culture, l'identité, la souveraineté nationale. C'est de dire, sur certains dossiers, et pourquoi pas l'énergie, pourquoi pas la défense, on peut mieux négocier et avoir plus d'influence au niveau mondial si on est regroupé que si on est isolé. Vous prenez la France, comment ?
C'est ce qui fait l'identité des pays. Donc, si on leur demande de coopérer, l'État va avoir l'espace de perdre son identité. Du coup, c'est ça qui
est Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est une question de survie pour la plupart de ces pays. Et que la France à elle seule ne peut pas supporter toute la charge des investissements de défense pour tous les pays européens. S'il n'y a pas un partage des charges, c'est pas le déficit public français qui peut servir éternellement d'élément moteur dans les investissements militaires. Bon. Oui.
Je ne comprends pas, vous dites que s'ils étaient regroupés, il n'y aurait pas de monopole, parce qu'il y a des autres, mais en France, on ne trouve pas Exxon ou Gazprom, donc en France, on n'aurait plus le choix. On n'aurait plus qu'un grand, donc ça, c'est pas un monopole.
Alors, est-ce qu'il y a la présence de BP, de Shell, notamment en France?
Oui,
donc on n'est pas dans un monopole, on est dans un duopole.
Vous disiez, s'ils se regroupaient, il n'y aurait pas de monopole.
En principe, non. Si on transforme le jeu concurrentiel en monopole, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'intérêt des entreprises, des pays, etc. On peut imaginer, par contre, comme ça se fait d'ailleurs dans les autres pays, qu'il y ait un champion qui, sur le marché domestique, ait une position forte, ce qui lui permet de mieux concurrencer les entreprises sur d'autres marchés, dans d'autres pays. Autrement dit, tous les rapprochements auxquels on assiste, notamment dans l'énergie, on part du rapprochement GDF-Suez, ce genre de rapprochement, c'est dans l'idée d'avoir des entreprises qui soient de taille suffisante pour rivaliser à l'échelle mondiale. Ce qui peut aussi signifier, et la question qui se pose effectivement est bonne, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas entré aussi dans une logique où une fois que vous avez quatre grandes entreprises, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de vouloir protéger son marché domestique et de dire, attention, je suis Exxon, vous ne pouvez pas venir me concurrencer. Je suis Gazprom, vous ne pouvez pas venir me concurrencer. Et je suis BP Total, vous ne pouvez pas venir me concurrencer. Et cette tentation, elle existe effectivement dans la défense, dans l'aéronautique, regardez les commandes publiques américaines, dans l'aéronautique ou la défense, ce sont souvent des entreprises américaines qui sont choisies. Donc, le seul moyen de lutter efficacement contre cette tentation de protectionnisme ou de patriotisme économique pour protéger des emplois ou des intérêts stratégiques, c'est d'être capable d'avoir un champion de même poids et de dire à l'OMC, dans les négociations internationales, que les marchés sont ouverts dans les deux sens ou pas du tout. Mais si vous le faites à l'échelle de la France, je prends l'exemple du textile. Pendant des années, les lobbies textiles ont dit « Attention, il y a un dumping social en Chine, par la délocalisation, on va perdre des emplois et on va tuer un secteur d'activité. » Bon, qu'est-ce que vous voulez que ça intéresse les Chinois ? Un marché de 60 millions de personnes, alors qu'ils ont un marché intérieur de 1 milliard. Donc là où vous pesez fortement, c'est si vous parlez à l'échelle européenne. Là, vous pouvez négocier beaucoup plus fortement. Si vous parlez à l'échelle de 300-400 millions de personnes, vous pouvez dire effectivement, la négociation commerciale porte sur des blocs qui sont de taille d'intérêt stratégique équivalent. Mais si les pays parlent en leur nom et de façon isolée, ça n'a aucune incidence dans les relations internationales. Comprenez ? Donc finalement, une manière de lutter contre la tentation protectionniste, c'est d'être capable de parler à armes égales. Une manière de jouer sur le jeu concurrentiel ou de renforcer le jeu concurrentiel, c'est d'avoir des acteurs puissants. Sinon, vous avez un leader qui a beau jeu d'avoir une position hégémonique, unilatérale, et d'imposer ses choix ou ses vues sur le marché. D'accord ? On va en discuter dans les